Radio G 101.5 FM.
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia.
C'est votre émission Info Culture.
Tous les mercredis.
De
19h à 20h.
Sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point. Et bien sûr, nous sommes tous là pour vous faire cette émission, une émission de choc comme d'habitude, avec donc Sébastien.
Salut.
Anaïs.
Salut, salut.
Et... Un invité mystère.
L'invité festival.
Mais c'est qui donc?
C'est Tony. Salut.
Monte le micro de Tony.
Bah, j'ai monté le micro de Tony.
Il a une petite voix.
Bien content de vous retrouver en tout cas depuis ces quelques semaines.
C'est cool.
Vous allez tous en forme.
Bonne année.
Merci. Très bonne année.
Surtout la santé.
Oui.
Excellente année à tous, à tous les auditeurs également.
Eh bien, je vous propose de commencer cette émission avec un petit morceau de musique, hein, un petit morceau spécial que tu m'as demandé de trouver, Renard Sauvage.
Ah oui, c'est White Fox. Alors ça, c'est super, c'est un groupe que j'ai découvert pas plus tard qu'il y a une heure. Non, c'est vachement bien, c'est Jean qui travaille à la radio, qui joue dans un groupe qui s'appelle White Fox, donc un groupe angevin, un groupe local. On va écouter ça tout de suite pour démarrer l'émission, vous allez voir, c'est vachement sympa.
D'accord, eh bien c'est parti. Et sur ces bandes mafia. Bande Geek Mafia
101.5.
Je peux pas tout faire.
Qui fait le point.
Eh ouais, je peux pas le faire là cette fois-ci.
Vous allez voir, c'est cool. Alors, au début, il y a toute une présentation, il y a tout un. C'est un clip, hein. Donc ça démarre pas tout de suite, tout de suite.
Encore de la musique de merde.
Il était 10:32, en route sur la D21.
Fly through the...
Et ben donc ça déménage un petit peu là, hein, comme oh,
comme
style.
Comme disent les jeunes.
Tout à fait.
C'est excellente découverte.
C'est excellent, c'est super, ouais. Hein, c'est vraiment très.
On adore White Fox.
Donc un petit groupe angevin. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupe ou
non.
Pas
Moi je sais que la vidéo de Locke a été tournée à Douai-la-Fontaine.
Ouais.
Voilà. Et sinon que bah, c'est un super groupe de rock. Ils ont participé quand même aux Inouïs. Je ne sais pas si vous avez entendu ça la semaine dernière au Shabada. Il y avait la sélection pour le Printemps de Bourges. Pour le festival du Printemps de Bourges.
C'est un tremplin.
C'est un tremplin, ouais. Et donc le groupe White Fox a participé à ce tremplin, donc on espère qu'ils seront retenus pour le Printemps de Bourges.
Ah bah alors bah, là,
écoute,
le paquet sur
on
eux.
Vote pour eux.
On vote pour eux, il n'y a pas de problème. Bon, alors, eh ben on va commencer cette émission, donc après le petit morceau de musique, on va parler un petit peu de cinéma. Qui a été au cinéma, là,
oui,
dernièrement
bah, moi j'ai un film animé japonais.
Un animé.
En ce moment, c'est le festival Premier Plan.
Ouais.
Donc, je vais aller voir des films quand même. Hein. Je vous dis, demain, vendredi et samedi, je pense là. Et puis on en reparlera la semaine prochaine.
D'accord.
Moi, j'espère aller au cinéma vendredi aussi. Donc peut-être.
On va peut-être se croiser.
Bah, peut-être.
Peut-être.
Je vais aller voir Ron Burgundy.
On croisera peut-être des auditeurs aussi.
Bah, sûrement. Bah,
peut-être. Bah, je vous mets un petit générique.
Oui.
Quand même.
Oui.
C'est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Ah non, de Dieu, de bordel de merde. Ah, oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, oh, je suis fou. Ah, oh, trolle-toi bien.
Alors, monsieur, moi, j'ai besoin de la référence, s'il vous plaît.
Bah, c'est le film, c'est les galettes de Pont-Aven.
C'est Jean-Pierre Marielle.
Ah, bien sûr. Hein.
Hommage à Jean-Pierre Marielle.
Hommage à Jean-Pierre Marielle en ce festival.
Très grand film.
Plan. Pourquoi pas.
Alors, Les Enfants du Temps.
Oui.
Je suis le seul à voir un film ou...
Ben,
je crois que tu avais du cinéma aussi.
Ben non, j'ai pas beaucoup
bon,
de
alors,
cinéma.
Alors, un petit
moi.
Film animé japonais de Makoto Shinkai.
À tes souhaits.
Donc, c'est l'histoire d'inondations hein, qui menacent Tokyo. Alors, en ce moment, il y a une épidémie en Chine, mais aussi des inondations. Hein. Et donc, c'est une ado qui est toute seule, mais qui peut stopper la pluie.
Ah, ah elle peut stopper.
Donc, un film écologique.
Ben non, pas forcément, parce si elle stoppe
voir.
La pluie...
Si. Non mais je te confirme.
Oui, non mais je te dis pas le contraire.
En fait donc il fait un sale temps à Tokyo hein, et donc depuis des semaines il pleut des cordes sur les mégapoles japonaises. Voilà, l'eau monte dangereusement, les inondations menacent, voilà, comme partout. Seule Ina qui a la faculté de provoquer des éclaircies. Voilà, c'est sympa ça. Donc un talent que cette fille du soleil, un enfant du soleil. Elle met à profit avec l'aide de Odaka, hein, un adolescent en fugue. Donc ils sont deux. Hein. Mais chaque don a un prix. Eh oui, comme disait Spider-Man.
Eh oui.
Grande responsabilité. Et celui que doit payer Ina en chassant les nuages s'avère exorbitant. Pour tenter de sauver celle qu'il aime, Odaka ne reculera devant rien.
Mm-hmm.
Alors sur le thème inépuisable des amours impossibles, Makoto Shinkai brode une histoire qui s'apparente à celle de Your Name, son précédent long métrage d'animation. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Je l'ai pas
même
vu
personnage
non plus.
Ou presque. Jusque dans leur physique, hein, même péripétie romanesque, même touche de fantastique, sans être véritablement une suite, Les Enfants du Temps pourraient former un diptyque avec le film d'avant, et semble lui aussi promis un énorme succès. Parce que c'est nouveau Miyazaki, en fait, hein, clairement. Donc 6 mois après sa sortie au Japon, il sort en France. Hein, et le film au Japon, il totalise près de 11 millions d'entrées, ce qui est
énorme.
Ah oui,
quand même, c'est pas mal.
Bah oui, c'est pas mal. Une performance étonnante, parce que ce film romantique, c'est un joli film, c'est un film délicat sur des sentiments et des gestes esquissés, mais qui cache un message,
mm-hmm.
qui n'a rien de consensuel. Parce que c'est sur en fait, les périls climatiques hein, liés à l'activité humaine, et donc Shinkai, le réalisateur, il invite en effet les jeunes générations à désobéir, voire à se rebeller contre les adultes, et les autorités aussi, armes à la main s'il le faut. Voilà, carrément.
Soyons tous des Greta Thunberg.
Exactement, les japonais.
Ou Stéphane Hessel, révoltez-vous.
Oui. Alors mieux encore, hein, dans une société où depuis toujours le conformisme hein, et le sacrifice de soi ont force de loi, le réalisateur prône sans complexe la poursuite du bonheur individuel, voilà, fût-ce au prix de l'intérêt général. Donc c'est du jamais vu dans un film d'animation japonais, très largement distribué, on l'a dit, et destiné à un public familial. Une œuvre à tiroir donc avec plusieurs niveaux de lecture, où derrière l'excellente facture de l'animation, la splendeur des cumulonimbus, si vous aimez les nuages, c'est magnifique, et des vues magnifiques de Tokyo sous la pluie aussi. Donc il faut s'attendre cette fois à une sacrée dose de wasabi.
Hein, ça pique un petit peu,
ça pique un peu, voilà.
Ça pique un peu.
Parce que derrière tous ces nuages, ces bons sentiments, en fait, il y a du piquant. hein, dans ce film japonais. Donc à la fois pour les enfants à partir de 7 ans, mais aussi pour les adultes.
D'accord.
Et c'est un film qui dure combien de temps alors du coup, Seb ?
Bah, c'est une très bonne question, j'en ai aucune idée.
3 ans.
Je ne sais pas, je sais que c'est un film d'animation qui invite les jeunes donc, à désobéir.
D'accord, donc c'est la rébellion. Ouais.
Et puis tu parlais de Miyazaki.
Oui.
Il y a une petite info qui a fuité. Alors, on ne fait pas de pub pour cette plateforme, mais voilà.
Mais on va le dire quand même.
On va le dire quand même. Il y a une vingtaine de films d'animation qui vont être disponibles, donc des films d'animation du studio Ghibli, donc, dont les œuvres enchanteresses du maître Hayao Miyazaki, qui vont être disponibles à partir du 1er février sur cette fameuse plateforme Enix. Donc on peut retrouver Mon voisin Totoro qui est sorti en 88, Porco Rosso de 92, Kiki la petite sorcière de 89,
Voyage de Chihiro.
Le voyage de Chihiro, ouais, qui avait reçu un Oscar, et Princesse Mononoké.
Génial.
Puis il y a aussi 5 autres films.
Le tombeau des Lucioles, mais de Kana.
Miyazaki
n'a pas participé.
Ouais. Alors Les Enfants du Temps dure 1h51, voilà.
Merci.
Et d'ailleurs sur Princesse Mononoké, puisque tu le dis, je l'ai pas vu. Quoi, je l'ai feuilleté, mais je l'ai pas lu. Il y a une bande dessinée, alors c'est pas vraiment une bande dessinée, un roman graphique qui a été tiré du film et qui actuellement ça fait un pavé à peu près de 400 pages, quoi, à peu près. Donc, oui, pas mal.
Et petit plus, juste, ça sera disponible en version originale sous-titrée, donc pas mal en fait. Bah ouais, ouais, mais pour se mettre vraiment dans le.
Ouais,
dans
mais quand on est fan et qu'on a les DVD, pourquoi ?
Oui, pourquoi ? Voilà, mais pour ceux qui n'auraient pas encore découvert cette œuvre, c'est un moyen d'y accéder et de découvrir.
On encourage vivement d'ailleurs de découvrir l'univers.
Oui, un très très bon univers. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, les petits amis, moi je vous propose un petit morceau de musique. Est-ce que ça vous tente ?
Oui.
Plaisir.
Un petit morceau de musique dans le rêve, bien sûr. Alors vous savez que moi je suis fan plutôt des Cranberry.
Oh bah sans blague.
Oh bah sans blague. Et donc je vous propose un petit morceau qui s'appelle Dreams sur Bang Geek Mafia.
Radio G. 101.5. La radio qui fait le point.
Super. Thank you. fait du bien un petit morceau des Cranberries.
C'est un peu long sur la fin.
Non, mais sur la fin, c'est vrai, mais bon, c'est tellement bon aussi en même temps. Bon, et bien maintenant, on va parler un petit peu série.
Oui.
Je vous mets un petit générique. Toujours le même, bien sûr.
Il est bien, sûr.
Il est bien.
Un grand classique.
Un grand classique. Mais on va plutôt partir sur celui-ci.
Ah bon ?
Là, j'ai peur.
Mais c'est parce que j'ai parlé d'un film japonais.
Bah oui, voilà, c'est ça, j'essaye de faire un lien logique.
Alors, moi, je vais commencer.
On va commencer, on va laisser Anaïs.
Et moi, la transition va être brutale. Et si un messie apparaissait, non pas il y a 2000 ans, mais en 2019 dans notre monde ?
Eh ben, on le brûlerait.
Eh bien, qu'est-ce qui se passerait alors ?
Devrions-nous le prendre au sérieux ? Le traiter d'escroc ou de complotiste ? Faut-il le voir pour le croire ? Donc, toutes ces réflexions de nature évidemment très religieuses sont au centre de la nouvelle série Messia, qui est sortie sur cette fameuse plateforme dont on ne citera encore pas le nom. Elle a été créée, donc, cette série Messia, par Michel Petroni, scénariste australien du Rite ou encore du Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Elle est amenée à l'écran par un jeune acteur belge de 34 ans qui s'appelle Michel Déby, qui a joué très jeune, à l'âge de 16 ans, aux côtés de Charles Berling dans un film qui s'appelait Le Soleil Assassiné, pour ceux qui l'auraient vu. Il avait obtenu le meilleur acteur, il avait eu un prix dans la catégorie du meilleur acteur. Il a joué au théâtre et on l'a vu en 2011 dans Looking for Simon ou dans Le Fils de l'Autre en 2012. Et là, franchement, il crève l'écran dans cette série Messia, où il joue le rôle principal, celui qui se fait appeler le Messie. À côté de lui, on retrouve deux acteurs, Michel Modagan, qui a joué dans pas mal de rôles assez divers, que ça soit à côté de Tom Cruise dans Mission Impossible ou dans la série True Detective.
Ouais, pour j'aime bien cette actrice.
Voilà, donc elle joue, c'est pas une avocate, c'est un agent de la CIA qui va enquêter sur le Messie. Et on a aussi Thomas Sisley à l'affiche de cette série américaine, un petit touche française. Donc l'acteur de 45 ans a déjà eu quelques rôles aux États-Unis, notamment en 2013 dans une comédie avec Jennifer Aniston. Donc c'est pas son premier rôle, mais bon, voilà, on n'en entendait plus trop parler. Et donc là, il refait surface dans cette série. Donc cette série, de quoi elle parle ? Je vais vous donner un petit peu le résumé.
Vas-y, dis-nous de quoi elle parle.
Lorsque l'agent de la CIA, Eva Geller, donc joué par Michel Monaghan, découvre des informations sur un homme qui attire l'attention internationale suite à des actes troublants l'ordre public, elle ouvre une enquête sur ses origines. Alors que de nouveaux adeptes témoignant de ses miracles continuent de rejoindre ses rangs, les médias du monde entier commencent à se laisser séduire par cette figure charismatique. Donc voilà, on va enquêter sur cet être qui se présente comme un être divin et qui va réussir à rassembler autour de lui plein de croyants qui croient justement à l'arrivée de ce Messie. Et donc on s'interroge, complot, voilà.
Plein de croyants qui croient, c'est...
Ça prend une ampleur internationale.
C'était
mignon, c'est mignonnet.
Donc à la production, on retrouve Marc Burnett et son épouse Roma Donnet, qui avaient déjà fait une série autour de la religion, c'était The Bible en 2013. Et puis ils ont... c'était des proches de Donald Trump, enfin bref. On s'en fiche. Mais voilà, il signe un thriller assez fantastique qui s'ouvre sur l'apparition en Syrie de ce mystérieux prêcheur et qu'on va appeler le Messie. Je sais pas si Tony... Moi, j'ai trouvé que le scénario, il était très intéressant, que le suspense était maintenu jusqu'au bout.
Ça a été très bien amené, en fait, pour l'avoir regardé en une soirée, dévoré une série.
C'est exactement ce que j'ai fait aussi.
C'est 10 épisodes, c'est 10 épisodes d'une heure, et effectivement, on est pris dans une spirale de questions.
C'est métaphysique.
Ça mêle un petit peu religion, mais pas trop, on s'embarque pas trop non plus dans...
Ah oui, c'est étonnant parce que...
Dans des messages et tout, justement, ça laisse la place au spectateur quand même de se faire sa propre idée, C'est un peu onirique, je trouve aussi, hein, d'ailleurs, comme série. Hein. Ça nous emmène, voilà, ça nous emmène sur pas mal d'endroits, sur pas mal de lieux, on va dire, très marqués, on va dire, sur la religieusement en parlant. Hein,
conflit, voyage quand même voilà, en Israël, Palestine, sur le autour du conflit israélo-palestinien.
Il y a l'idée, quoi.
Ça nous emmène jusqu'à Washington, même.
Ouais. Ouais, ouais. Cette série, elle est comparée, je pense à juste titre, à la série Homeland.
Ah oui,
ah, voilà.
Série un peu paranoïaque à Homeland.
Ouais, 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 mais on retrouve voilà, le contexte très actuel aussi, et puis la place de la CIA. Ouais, non,
justement, sur le côté parano, c'est là que la série est super intéressante. C'est finalement quelle place on est capable de laisser justement à un individu qui crée des miracles, a priori, coup sur coup, qui a été filmé, qui...
Est-ce qu'on y croit ou pas ?
Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas ?
Et justement, ouais. Quel type de miracle ? Allez-y,
ben,
quoi.
Non, mais,
sans vendre tout, mais...
Et ben, le premier épisode s'ouvre sur une tempête de sable qui fait fuir finalement Daesh.
Tout à fait.
Non, mais voilà, et du coup...
qui dure un mois... Et a priori, ils seraient restés dans cette tempête pendant un mois. Ils n'auraient pas mangé ni bu.
Ils n'auraient pas respiré non plus.
Ils auraient sauvé un peu le peuple. On le voit également sauver un enfant qui se prend une balle.
Voilà. Et du coup, les questionnements qui arrivent. Donc là, c'est vraiment sur le premier épisode. Donc après, il va y avoir d'autres choses, mais on peut pas tout dévoiler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu avec le phénomène qui devient vite mondial avec les réseaux sociaux, la place de l'image. On voit, il y a une jeune fille qui va finir par le suivre et qui va poster régulièrement, qui va faire finalement la publicité mondiale du Messie à travers les réseaux sociaux. Donc c'est aussi un questionnement sur ça, je trouve.
Tout à fait.
Donc aussi sur le monde moderne, quoi.
Ouais, voilà.
Enfin, sur les réseaux et pas seulement sur la religion, finalement.
Ouais, puis c'est, effectivement, comme tu disais, hein, l'acteur, il est ultra charismatique, il est.
Il faut pour être un messie, il faut être charismatique.
Ah ouais, non, mais là, c'est assez bluffant.
Ça, c'est sûr.
C'est vrai que la performance de l'acteur, je ne savais pas ce qu'il avait fait avant.
Le faire.
Ça m'intéresse beaucoup parce que effectivement, on s'accroche complètement.
Tu peux nous rappeler le nom de cet acteur ?
C'est Michel Déby. Il est assez jeune, il a 34 ans et premier rôle à 16 ans. Et après, effectivement, il a fait le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il a fait beaucoup de théâtre avant de retourner après 6 ans au cinéma. Quoi. Et il a été remarqué dans la série de fiction de Canal+, L'Infiltré, en 2010, où il remporte un prix aussi pour le meilleur acteur. Donc voilà, il était déjà un petit peu connu, mais là, je pense que peut-être davantage encore.
Ah, puis le personnage, je veux dire, c'est le message qu'il cherche à délivrer, finalement, qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'il rentre pas dans des vérités, justement. Il fait en sorte que chacun se crée ses propres vérités, pose ses propres questions.
Il est fort.
Mais justement, c'est ce qui en fait un personnage vraiment énigmatique.
Il est pas dogmatique.
C'est qu'on lui demande pas à un moment, bon, bah, vous êtes qui, vous ? Il a toujours une très bonne manière de répondre et justement voilà on va emmener le spectateur juste voilà. Est-ce que c'est un escroc, est-ce que c'est
c'est un philosophe grec non mais c'est vrai
qui est finalement et ouais. C'est vrai que tant qu'on n'a pas poussé les épisodes
et on a une réponse
non
ah on ne vous dira pas
moi je
pense
que
au prochain numéro donc
voilà il y aura forcément une deuxième saison
c'est possible qu'il y ait un opening effectivement sur
En tout cas, la presse en parle, est assez mitigée. Hein. Bah, voilà, il y a des, par exemple, Première dit que c'est un passionnant thriller théologique et géopolitique. Le Parisien dit que c'est un thriller addictif. Télérama est un peu plus
normal.
Voilà, intrigant mais assez creux et imprégné d'une ambiguïté gênante. Donc voilà, faites-vous votre propre avis et découvrez Messia.
Eh bien, il y a une autre série apparemment, parce qu'on continue toujours sur le thème un peu de la religion.
Exactement, hein, Seb,
voilà.
Tu l'as compris.
Je l'ai compris, j'ai bien compris. Donc, tu vas nous parler de quelle série religieuse cette fois-ci ?
The New Pope. Bah oui, alors après le Messie, le Pape.
Bah oui, bah c'est normal, à nouveau.
C'est un peu la
suite logique.
C'est le fil rouge.
C'est le fil rouge.
Donc, c'est Paolo Sorrentino, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réalisateur italien qui avait créé la série The Young Pope avec Jude Law. pour Canal+. Et là, c'est The New Pope, donc la saison 2, en fait, c'est la suite.
Toujours avec Jude Law ?
Alors non, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
Ah oui, mais attention, ne spoilie pas non plus complètement.
Alors, ne divulgage pas.
Oh, ah, divulgage pas, ça arrache les oreilles.
Divulgacher, j'adore. Alors, en fait, c'est génial parce que ça démarre sous une croix géante en néon rouge. Et là, on a des religieuses légèrement vêtues qui se trémoussent au rythme d'une musique disco.
Ah, t'es dans quel type de soirée là ?
Je suis dans la série de Sorrentino. Donc, en fait, on est à Venise. Et il y a une sœur qui lave lascivement plutôt le corps du pape, plongé dans le coma. Puisque, donc, le pape Pie XIII, joué par Jude Law dans la série The Young Pope, est dans le coma au début de la saison 2. Voilà.
Faut voir la saison 1
pour savoir, comment il est tombé dans le coma.
Mais je vous dis pas. Alors,
religion... Il a glissé, en réalité, en sortant de sa baignoire, il a glissé, c'est tout.
Non, ça, tu confonds hein, avec Claude François. Alors, religion, érotisme, et oui, et désir brûlant, voilà. C'est un peu la recette de The Young Pope et donc The New Pope aussi, j'imagine. Alors, 3 ans après hein, The Young Pope, Paolo Sorrentino, il n'a pas fini de faire grincer les dents, vous avez compris. La provoque, la démesure, tout ça. L'ironie aussi, bien sûr. Tout ce qui fait que l'on adore ou déteste le réalisateur italien, hein, qui a fait même des films assez intéressants, si vous n'avez pas vu, je vous les conseille. Alors, ça frappe tout de suite dès les premières images hein, quand on regarde cette série. Et la saison 2, c'est la même chose, c'est son inclassable fresque papale. Parce qu'on voit, en fait, tous les, enfin, il imagine les coulisses, en fait, et on voit les coulisses de ce qui se passe derrière. Donc, 9 mois après, je vous dis pas ce qui s'est passé, que le très réac, donc Pie XIII, incarné par Jude Law, donc soit tombé dans le coma, le Vatican est confronté à un double défi. Mettre fin à l'idolâtrie née autour du jeune pape faiseur de miracles, lui aussi, et lui trouver un successeur. Et là, le réalisateur, il est plus proche de ses personnages. La suite, elle est tissée d'intrigues multiples, empreinte d'une sensibilité nouvelle, parce que c'est plus nuancé, alors c'est moins provocateur peut-être que la première saison, mais il est encore loin de rentrer dans le rang, hein, Sorrentino. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une série politique, enfin, vraiment, c'est une série politique, The Young Pope, et The New Pope aussi. Une quête d'absolu, on en parlait tout à l'heure dans Meshaya, et une quête de soi. Parce que les papes, avant d'être des papes, sont des hommes. Comme
non.
Les autres. Oui,
non.
Madame, oui, monsieur.
Non, ce n'est pas possible.
Et donc là, ce qui est génial, c'est qu'après Jude Law, c'est John Malkovich, le grand.
Ah, mais moi, je suis fan.
Eh oui, mais nous, on est tous fans. Alors, le grand John Malkovich qui devient pape à la suite de Jude Law. Et donc, après l'idolâtrie, est-ce que c'est la voie de la raison ? Point d'interrogation, n'en suis pas sûr. C'est toujours une série déroutante par l'irrévérencieux Sorrentino, je vous le conseille. The New Pope saison 2, c'est sur Canal+.
C'est marrant, on a l'habitude d'avoir un traitement un peu spécial avec les papes, parce que je me souviens de la série Borgia.
Oh là là !
Oui, mais ça c'est historique, mais c'était longtemps.
Oui, là c'est pas historique, c'est de l'anticipation.
Oui.
Mais on est sur
peut-être que tout est vrai, on ne sait pas.
On est sur de la fiction, enfin sur de la fiction pure et dure, enfin sur de.
On est entre deux en fait.
Sur des faits réels, enfin voilà, certains faits réels, sur du.
Eh ben on ne sait jamais si c'est réel ou si c'est inventé. C'est ça qui est génial, parce que ça peut être tout à fait réel. Je cite. Sous une croix géante en néon rouge, des religieuses légèrement vêtues se trémoussent au rythme d'une musique. Bon, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est vrai? Mystère. Bon,
est-ce que c'est possible vu l'âge de certaines religieuses? Non, c'est pas possible.
Tous les samedis soirs au Vatican.
Ouais.
À l'écave du Vatican.
Non, mais honnêtement, si vous n'avez pas vu The Young Pope, regardez. Et si vous avez vu The Young Pope, courez sur The New Pope.
Et ce qu'on peut regarder, oui, on peut la regarder sans avoir vu la première saison.
Tout à fait. Oui, parce que finalement, le jeune pape, il est dans le coma.
On ne saura pas juste pas pourquoi.
Juste, tu sais pas pourquoi.
D'accord.
Moi, je sais, je pourrais te le dire. Mais
mais ça a un intérêt quand même, justement, de regarder la saison 1.
Regardez la saison 1 de Jude Law, il est extraordinaire.
D'accord.
Ah,
okay.
Il est juste génial, magnifique, tout ce que vous
voulez. J'adore cet acteur en plus, mais j'ai pas pris le temps encore de regarder.
Bon, mes bien chers frères et mes bien chères
sœurs. Oui, chantez au moins.
Amen. Bon, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique, The Pink Floyd, qui traduit un petit peu notre état d'esprit, Brain Water sur...
Non, c'est Brain Damage.
Brain Damage ? Brain Damage, oui, non, Water. Brain Damage, effectivement, sur Radio G.
La radio qui fait le point.
Ouh, c'est parti.
On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with the bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts, thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Sympa.
Chef-d'œuvre.
Un petit chef-d'œuvre, voilà. Brain Damage, The Pink Floyd sur Radio G, ça fait du bien aux oreilles. Alors, je vais passer, ça va être à mon tour.
Hein, oui, c'est à toi.
Ça va être à moi.
Tu nous parles de BD.
Ouais, je vais vous parler de BD.
Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage.
Qu'as-tu donc dans ton panier? Voilà, on n'a même plus besoin de mettre les génériques. Ils font les génériques à la voix.
Tout à la bouche.
C'est parti. Eh bien, première bande dessinée. Oh, allez, hop, on y va, tranquille. Richard Guérino, Henriquet, L'Homme Reine, aux éditions Delcourt Mirage.
Henri IV. Ah oui, Henri III.
J'ai essayé, Chico. Je te jure, je l'ai essayé. J'aurais pu être un bon roi si je n'étais né dans une si mauvaise siècle. Mais t'es pas un roi, Henriquet, mais une reine. Voilà, ça c'est le quatrième de couverture, c'est la présentation.
On va écouter Queen après.
Ça, ouais, tout à fait.
Ça non.
Et donc voilà, on plonge dans le règne de Henri III, mis en image par celui qui avait fait l'adaptation de Charlie IX.
Super.
L'adaptation de Jean Tellet. Voilà, j'étais en train de chercher. Donc là, du coup, bah, voilà, on a la suite. Après Charlie IX, bah, finalement, on a Henri III. Et donc là, c'est carrément du bonheur. Bon, on n'apprend pas beaucoup de choses, mais honnêtement, c'est bien fait.
On n'apprend pas beaucoup de choses parce que tu dis ça parce que t'es prof d'histoire.
Oui, voilà, c'est ça.
Après, les autres peuvent apprendre des trucs. Deux, trois trucs sur Henri III. Voilà. On savait qu'il était homosexuel.
Moi, je découvre. Moi, je ne savais pas.
On savait pas tous qu'il était homosexuel.
Homosexuel. Il avait des mignons, disons qu'il avait quelques difficultés avec les jeunes filles. Et c'était dommage pour lui, puisqu'on attendait une seule chose de lui, c'est qu'il fasse un héritier.
Oui, il avait une femme et on attendait un héritier. Ouais. Et c'est pour ça que...
Et d'ailleurs, sa femme, elle est un peu comme Guenièvre dans Kaamelott, elle attend toujours
C'est exactement ça. Sauf qu'Arthur, il a plein de
maîtresses. Non, il a plein de maîtresses. Sauf que lui, il n'a pas de maîtresse, il a des mignons. Voilà. Donc moi, je vous le conseille parce que c'est superbement bien fait.
Les mignons, c'est pas des petits bonhommes jaunes. Hein.
Moi, quand vous me parlez de mignons, moi, j'ai ça dans mon imaginaire.
Pas Bob. Enfin, c'était peut-être Bob, mais... c'est Robert, on l'appelait Bob.
Ouais, bah, Bob. Hein.
Donc moi, je vous conseille, franchement, c'est bien, on passe un bon moment. Il y a du sérieux aux éditions Delcourt, c'est pas mal.
Il y a du sérieux,
c'est du bon.
Plus que dans l'émission.
Oui, tout à fait. Alors, ben voilà, je vais vous présenter une bande dessinée qui n'est pas une nouveauté, hein, puisque c'est pas d'aujourd'hui que c'est sorti quand même. Franck Margerin et de Marc Cudrado. Quadrado. Excusez-moi sur la prononciation. Je veux une Harley.
Ah ouais, moi aussi.
Ouais. 50 ans, la première coloscopie et l'envie soudaine d'acheter une Harley Davidson. La vie est courte, merde. Mais devenir biker, ça ne s'improvise pas. Donc voilà, on suit les aventures donc d'un personnage, d'un personnage, on va dire, un pauvre type qui s'appelle Marc Carré, qui vient juste d'avoir 50 ans et qui, pour son anniversaire, a droit à se faire une coloscopie. Voilà, alors
des choses qui arrivent.
C'est un peu ce qu'attend tout le monde.
Les gars, je vais vous dire un truc parce que bon, Anaïs, ça te concerne pas,
non.
Mais je le dis en direct.
Vas-y.
On va y échapper parce qu'ils ont trouvé. Alors parce que je pense parce qu'on est des hommes hein, et que c'est des médecins et que ça concerne des hommes. Ils ont trouvé le moyen maintenant de pouvoir détecter le cancer de la prostate sans coloscopie.
Ouais.
Yeah,
en faisant un toucher rectal.
Non, mais non, justement, sans toucher rectal, avec juste un prélèvement et une analyse. Et voilà, et je dis merci la science.
Bon ben, quoi qu'il en soit, notre personnage dans la bande dessinée, il a pas eu cette chance là. Et du coup, quand il a ses résultats, voilà, crise de la cinquantaine pour lui, paf,
il achète une Harley. Il y en a qui achètent une Porsche aussi.
Lui il s'achète une Harley. Et donc du coup, on va suivre, parce qu'il y a 5 volumes comme ça, donc on va suivre les aventures de ce personnage qui essaye de devenir un biker à 50 ans, mais c'est un peu compliqué, hein, surtout quand on est plutôt genre typé bobo, hein, comme on peut dire.
Ah, quand on n'a pas la culture. Hein.
Non, quand on n'a pas la culture, quand on n'a pas la carrure, quand on n'a pas non plus la descente de bière, donc autant dire que c'est assez compliqué. Du coup, on se marre vraiment tout au long, et moi j'ai trouvé ça carrément génial. Voilà, donc je vous le conseille, c'est pas une nouveauté, mais ça je vous le conseille, c'est vraiment super.
Ouais, la première de couverture, elle est top.
Ouais,
pour les fans de Sons of Anarchy.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, voilà tout ce que je voulais vous présenter en bande dessinée. Deux petites bandes dessinées.
Maintenant on écoute Queen et Lynyrd Skynyrd.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Parce que c'est les deux musiques qui auraient très bien collé avec tes deux BD.
Ouais, mais
Queen et Lynyrd Skynyrd.
Non, je ne fais pas une suite.
Non, mais il parle pas dans le micro non plus.
Je ne parle pas dans le micro.
Momo.
Ben Momo, le retour, hein, voilà. Je vous propose un petit morceau de Evanescence.
C'est pas vrai.
Tu me replonges dans mon adolescence.
Oh là 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 là. Et à ton avis, c'est quel morceau?
C'est plus connu.
On va dire connu.
Non.
Non, c'est
Bring Me Back to Life. Dans Bang Geek Mafia.
Ah oui, retour en enfance.
Ah, t'es prêt? T'es prêt, Tony,
pour
retour
en enfance? Retour à la vie.
Retour à la vie. Allez, c'est parti, c'est maintenant.
Sur Radio G, 101.5.
La radio qui fait le point.
How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so I'm
le petit revival en adolescence, hein, finalement, oui. Pour Anaïs. Donc, c'était Evanescence. Et donc, là, maintenant, on va partir pour un petit livre.
Oui. Mm-hmm. Mm-hmm.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Alors, je vais pas vous présenter ce soir un polar. Je vais vous présenter je vais vous présenter un roman qui, comme ta BD, Seb, n'est pas sorti très récemment. Bon, il date de 2018, donc il est sorti en poche il y a pas si longtemps. C'est un livre de Delphine de Vigan. Voilà, moi j'aime beaucoup cet auteur et surtout c'est les personnages qu'elle développe à chaque fois dans ses livres. Ça n'a pas été une lecture super joyeuse, mais je l'ai dévoré. Donc c'est synonyme généralement d'un livre qu'on a apprécié. Donc voilà, je voulais vous en parler ce soir. C'est Les Loyautés. Les Loyautés, ça parle de quoi ? Ça parle d'Hélène qui s'inquiète pour son élève de 12 ans et demi qui s'appelle Théo. Donc ça va peut-être parler parce que elle est enseignante, cette femme. Théo a ses parents qui sont divorcés, il vit en garde alternée. Et ses parents sont deux ennemis, vivent dans deux mondes, ont deux manières de s'exprimer différentes. Cet enfant, il est plus intelligent finalement que ses parents. Donc c'est un pire que pour lui, en fait, cette situation le dépasse. Et puis donc Hélène va s'attacher à cet enfant qui, parce qu'elle aussi a vécu des drames dans son enfance avec un père qui n'était pas toujours très c'est vrai que non, il est pas gay ce livre de ce nouvel opus de Delphine de Vigan, mais voilà, c'est un roman choral à quatre voix. En fait, chaque personnage s'exprime, donc Hélène, la professeure, Théo, son ami Mathis, avec qui il va pouvoir partager un peu ses peines d'une manière un peu particulière. Je ne vais pas vous dévoiler, mais voilà, je vous invite à le lire. Et puis, on a la maman aussi de Théo qui s'exprime. Donc, on va voir donc ces personnages humains, assez touchants. Et voilà, Hélène, loyale à ses convictions, qui va essayer d'aider ce petit Théo. Ouais, voilà, c'est assez lourd.
Non, mais là, on n'en peut plus. Là.
Tiens, prends un bonbon.
Mais voilà, je vous lis quelques critiques. Hein. Sob, subtil, d'une force magistrale, on nage pas ce roman qu'on lira d'une traite. Delphine de Vigan décrit avec une rare acuité les relations qui se tissent et se nouent entre les êtres. Donc voilà, pour les personnes qui aiment Delphine de Vigan, hein, on l'a connue avec... Moi, j'avais adoré le livre D'après une histoire vraie, hein. Où elle partait un peu... Il y a des romans qui sont entre la fiction et son parcours à
Est-ce
elle.
Est-ce que c'est elle qui a fait « Rien ne s'oppose à la nuit »
Oui. Ah, oui, exactement.
Très bien, très bon.
Donc voilà, c'est elle, où elle, justement, elle parlait un peu de... Là, elle délivrait des choses sur sa famille. Et d'après une histoire vache, suivait ce « Rien ne s'oppose à la nuit » et était entre la fiction et la biographie. Donc voilà. Et il a été suivi, ce livre, d'un deuxième livre, un peu dans la même thématique, qui s'appelle Les Gratitudes, et qui, lui, est sorti en mars 2019, que je n'ai pas eu l'occasion encore de lire, mais je pourrais vous en parler peut-être plus tard.
Avec plaisir. Eh bien, ça sera avec plaisir.
Voilà.
Bon. On a encore le temps pour un petit morceau de musique.
Bien sûr. Hein,
toujours.
Bah, justement... On va écouter Maître Gims.
Ben non, pas du tout. On va écouter le groupe Muse avec un petit morceau que moi j'adore.
Time is running out.
Voilà, il me connaît par cœur. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, bah, maintenant c'est Muse sur Bang Mafia.
Radio G.
Ah, Tony.
101.5, la radio qui fait le point.
Ouais.
I wanna break this spell that you've created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. Yeah.
Mais ça fait du bien, un petit muse, hein, comme ça. C'est
ça
bon.
Donne envie de crier. Alors
moi, ouais. Je vous le dis tout de go, je vous le crie. La langue française est joyeuse.
Il est parti.
La langue française est joyeuse. Oui, parce qu'avec une joyeuse volubilité.
Joyeuse, mon Dieu.
Lélia Véron, 32 ans, enseignante-chercheuse en stylistique et langue française, oui, monsieur, dame. Elle prouve que les mots et leurs usages n'ont rien, absolument rien de poussiéreux. Et oui, parce que, évidemment, on est dans la chronique, hein, YouTube, podcast. Là, c'est sur Binge Audio. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, très bien.
C'est vachement bien.
C'est super, Binge Audio.
Alors, dans ce podcast qui s'appelle Parler comme jamais, sur Binge Audio, elle ausculte le français, ses tendances et son histoire, avec autant de rigueur que de décontraction. Elle répond aux clichés sur la langue, hein, bien sûr, et analyse ses vices et ses vertus.
Ses vices et ses vertus.
Voilà. Non, en fait, on peut rire avec les mots, c'est pas honteux, etc. Alors, comment est née cette idée de podcast ? En fait, au départ, elle avait publié aux éditions La Découverte avec Maria Candéa un livre qui s'appelait « Le français est à nous ». Voilà. Et ce livre, il y avait eu énormément de retours positifs. Et donc, elles se sont rendues compte que le sujet intéressait. Et la suite logique, c'était le podcast. Voilà. C'est ce qu'on fait maintenant, quoi. Alors, c'est dommage de parler de langue seulement à l'écrit. C'est pour ça aussi que le podcast est intéressant. L'oralité, c'est un médium qui s'est imposé. Hein, et le mot « parler » est dans le titre précisément pour cette raison. Parler comme j'aime. Alors, c'est une référence audacieuse, vous avez compris, à « Saper comme jamais » de Maître Gims. Et donc, pourquoi ? Parce qu'elle aime bien ce côté pop culture. Mais elle n'avait pas envie, comme nous, mais pas Maître Gims, mais pop culture. Mais elle n'avait pas envie pour autant de, que la référence soit trop excluante. Voilà, mais le titre fonctionne quand même, même chez ceux qui ne connaissent pas la chanson.
C'est et qui n'aiment pas Maître Gims aussi.
Même chez ceux qui ne connaissent pas la chanson. Mmh. Si vous voulez vous
ça,
entraîner.
C'est pas mal, ça pourra articuler.
Mmh. Donc ça va avec la conception qu'elle a de cette discipline, c'est-à-dire que la langue est dynamique, elle est joyeuse, voilà, c'est pas triste, on va s'en saisir et parler comme jamais. Voilà. Alors, dans un épisode, il y a une comédienne qui s'appelle Pauline Clément, de la Comédie française, hein, qui livre un témoignage fort parce qu'elle est dysorthographique. Mmh. Alors, c'est intéressant, parce qu'on a du mal à imaginer ça. Ben, en fait, elle connaît pas l'orthographe. Mais ça veut pas dire qu'elle connaît pas la langue, puisque c'est son métier. Elle est comédienne à la Comédie française. Ouais. Donc ça montre bien que les normes sont fortes, hein, et puis, mais qu'on peut les remettre en question. Et donc ça veut dire aussi que stigmatiser quelqu'un sur l'orthographe, c'est une manière de lui dénier le droit à la parole. Quoi. Mmh. C'est triste. Et d'ailleurs, c'était flagrant avec les gilets jaunes, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors, est-ce qu'il y a de la politique dans la langue ? Ben oui, parce qu'en fait, elle dit beaucoup. On projette toujours quelque chose dans ce qu'on dit. Voilà, des questions d'identité, des questions affectives, des enjeux qui varient aussi selon les époques. La langue, elle est une expression de nous-mêmes, elle permet de s'exprimer, d'exprimer notre individualité, et quelque chose de plus vaste, qui nous dépasse, en fait. Et cette tension, elle est là, elle est intéressante, donc c'est ce qu'elle évoque dans ses podcasts. La langue, c'est une façon de nommer le monde et les éléments, de les hiérarchiser, de leur donner ou non une valeur. Et donc ceux dont on reconnaît la parole sont ceux qui ont le pouvoir, tout simplement. Ça, c'était déjà Roland Barthes qui disait ça. C'est pour cela qu'il ne faut jamais oublier que nous faisons la langue. On l'a fait évoluer, on l'a fait vivre. Et on ne va pas attendre qu'une institution nous donne l'autorisation de parler, évidemment. Tout le monde est en droit de s'en saisir, voilà, de parler, d'écrire, etc. Donc, allez-y. Hein, le français, ses tendances, son histoire. Donc, parlez comme jamais sur Binge Audio. Hein, moi, Lélia Véron décrypte notre langue en toute décontraction, en pointant des enjeux donc individuels et politiques. C'est une fois par mois, ça dure environ 40 minutes. Voilà. Binge Audio, parlez comme jamais.
D'accord, merci. Bon, on va écouter un dernier petit morceau. On va peut-être pas l'entendre en entier parce que bientôt l'émission est bientôt terminée.
Oh.
Alors, je vous propose d'écouter un petit Black Sabbath.
Oh, c'est pour moi.
Iron Man.
I am Iron Man. Dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Alors on va pas couper, on va juste dire au revoir à nos auditeurs et puis on va vous laisser savourer Black Sabbath avec Iron Man.
Salut, à la semaine prochaine.